Bien, bonjour Jérôme Pilmant.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre domaine, si je puis dire, au domaine d'eau.
Oh, c'est pas le mien, ça.
C'est pas le vôtre. Non, mais il y a votre domaine à l'intérieur du domaine d'eau, le domaine des folies lyriques.
Absolument.
Alors, on va parler de la prochaine édition des folies lyriques. Alors, vous expliquez dans la note d'intention hein, que vous avez souhaité élargir le champ de vos voyages après nous avoir emmenés dans le répertoire français, dans le répertoire européen, on va dire. Ça fait 2 ans qu'on est parti, et puis ça a commencé un peu avant, mais là, on
Oui.
était parti sur
Aux
Broadway.
États-Unis, absolument, absolument.
Et maintenant, on va rester sur le continent américain, mais alors, on change de moitié de continent.
Voilà, on va plus au
On
sud.
va descendre plus au sud avec des folies latinas. Alors, qu'est-ce qui vous a donner cette envie, puis vous allez nous donner le détail de tout le programme, de partir comme ça, explorer ce monde latino-américain.
Ben, parce que ce monde est très riche en musique, est très riche en musique, est très riche en musique populaire, est très riche aussi en musique symphonique, en musique lyrique. C'est un. Voilà, c'est. Et comme souvent, on connaît peu et on a toujours tendance à jouer un peu les mêmes choses. Et voilà, et moi j'avais envie un peu d'étudier comme on l'a fait avec les Folies Broadway, c'est-à-dire d'aller chercher, bien sûr, de toujours proposer au grand public les grands tubes hein, du XXe siècle, les grands tubes de Broadway. J'ai eu envie de faire le même travail, de chercher des choses connues, puis des choses qui n'ont pas traversé l'Atlantique, hein, c'est encore plus loin, et qui ne. Voilà, et de faire découvrir un peu. Toutes les choses. Alors bien sûr, on connaît Piazzolla, Gardel. On parlait de Moncayo, de Marquez, tous ces compositeurs, Villa-Lobos au Brésil. Voilà. Et j'avais envie de faire découvrir un petit peu ce répertoire qui est très dansant, qui est très charmant. C'est voilà, qui est très lyrique et qui mérite vraiment une bonne place et une belle saison d'été à l'amphithéâtre du Domaine d'Eau.
Voilà, alors c'est vrai qu'on pense souvent à la musique populaire concernant l'Amérique du Sud. Alors, bien sûr, le tango, hein, puisqu'on évoquait la figure d'Astor Piazzolla, bon, les tangos, les salsa, les milongas et que sais-je. Mais il y a aussi de musique entre guillemets sérieuse. Villa-Lobos en est un parfait exemple. Et puis il y a peut-être aussi ces frontières beaucoup plus floues que chez nous entre les deux genres de musique.
Absolument, absolument. Vous avez des compositeurs comme Jobim au Brésil qui ont écrit des chansons célèbres, qui ont traversé l'Atlantique. Parce que souvent, ce répertoire a été repris par des. Alors, ou par des artistes américains ou des artistes européens. Je pense à Piaf, hein, par exemple. Il dit Piaf, rien que ça, on verra qu'une de ses chansons les plus célèbres est une chanson, en fait, sud-américaine, qui vient d'Argentine, voilà. On trouve, en fait, on s'aperçoit. Vous savez, il y a une époque, on parlait au 19e ou 18e de la musique baroque ou de la musique romantique. Souvent, les compositeurs il y avait se copiaient et c'était un honneur de copier. Voilà, Mozart a copié Jean Chrétien Bach, etc., etc.,
Ce
etc.
n'était pas considéré comme du plagiat donnant
Non,
lieu à
il y
des
avait pas.
procès.
Voilà, c'est pour ça que j'ai pas prononcé le mot de plagiat, mais parce qu'effectivement, c'était plutôt un hommage. On prenait une. Et vous savez, même Beethoven. Alors là, on va sortir des folies latinas, mais moi, je me souviens en 1988. En 1988, nous avions fêté à Grenoble, le bicentenaire de la Révolution, puisque la Révolution française est née au château de Vizille, par cette fameuse journée des Tuiles, et les révolutionnaires chantaient. Et chantaient des chansons du Dauphiné, donc de la région de Grenoble. Et on s'aperçoit que Beethoven s'est énormément inspiré de ces chansons populaires françaises. Parce que Beethoven était très francophile et s'intéressait à la musique populaire. Mais Dvorak a fait la même chose dans son pays. C'est-à-dire qu'on prend un thème populaire et puis on le. Alors voilà, on en fait ce qu'on appellera, nous, en Europe, la musique savante, ou la musique classique, etc. Et tout ça a existé de tout temps et dans tous les pays. Et on retrouve ça un petit peu finalement en Amérique du Sud au XXe siècle avec des compositeurs qui écrivent des chansons et puis qui vont être reprises Voilà, genre le tango de Gardel et de la musique de Piazzolla en est un exemple, où on va prendre une chanson ou une danse un peu célèbre, un peu populaire, un peu facile, et on va la monter là-haut, tout en haut de l'échelle. Et ça, je trouve, c'est une très belle aventure. Et j'avais envie, voilà, qu'on fasse ce travail autour de l'Amérique du Sud, de s'apercevoir que des chansons célèbres et simples ont donné lieu à des chefs-d'œuvre aussi symphoniques et lyriques. Je pense à la comédie musicale de Villa-Lobos, Magdalena, etc., qu'on connaît peu, même si elle a été donnée à Paris une fois, qu'on connaît peu et qui mérite vraiment d'être jouée.
Voilà, j'ai envie de dire qu'on ne connaît pas, on pourrait dire clairement, parce que personnellement, bon, j'aime beaucoup Villa-Lobos, mais j'avoue que je ne connaissais pas voilà, cette comédie musicale, et j'imaginais pas Villa-Lobos composant une comédie musicale. Alors, mais bon, en même temps, il y a des excuses, parce que on qualifie toujours du compositeur aux mille œuvres. Il a énormément composé.
Mais voilà, il est parti de choses simples, de la musique de chansons, et puis il a travaillé. Et puis il y a cette formation merveilleuse qu'ont ces compositeurs qui se sont souvent formés, j'allais dire, dans la vieille Europe, hein, et aux États-Unis. Moi, j'aime à dire que déjà dès la période baroque, les compositeurs voyagent beaucoup en Europe. Hein. On verra que Handel, Bach, Vivaldi ont fait le tour d'Europe à une époque où c'était pas si facile que ça de voyager. Et ben, les compositeurs américains ont fait pareil, puisque on s'est aperçu que dans Broadway, les compositeurs américains était évidemment inspiré par le jazz, mais aussi venait prendre des cours au Conservatoire de Paris. Combien sont venus à Paris travailler avec Boulanger, etc., avec tous ces gens-là, ou aller travailler à Vienne. Eh bien, on se rend compte la même chose aussi avec les compositeurs d'Amérique du Sud, qui ont fait souvent un go-between entre l'Espagne et la France, et leur pays d'origine, où ils sont revenus et où ils ont composé, et ce qui donne une couleur absolument particulière à ce répertoire.
Oui, et puis tous, enfin, en plus sur ce que vous dites, le monde de la comédie musicale en général, beaucoup de compositeurs venaient d'Europe, ont émigré aux États-Unis, donc sont arrivés avec leur culture européenne, et on peut en dire autant des Sud-Américains qui ont fait effectivement le voyage. Un Piazzolla, une partie de sa formation, c'est à New York dans sa jeunesse.
Absolument.
À écouter dans les clubs de jazz.
Voilà, et puis on dit, alors même s'il y a... Aujourd'hui, les historiens se déchirent un peu, mais on pense que Carlos Gardel est quand même né à Toulouse. Donc voilà, et bien après, il est retourné et a fait plein d'allers-retours dans son pays. D'ailleurs, il est mort dans un accident d'avion, je crois, à Bogota ou quelque part en Amérique du Sud. Voilà, ce sont des gens qui voyageaient énormément. Et on a du mal à imaginer toujours que ces compositeurs avaient soif de voyage et de découvrir. Et voilà, et nous, modestement, ben, on essaye de faire ce petit travail et de présenter au public, ici, à Montpellier, dans ce domaine d'eau, voilà, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre et dans des versions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, bien sûr, Cumbay Segundo qui vont venir, ça, voilà, ça, c'est un groupe installé à Cuba, mais avec l'Orchestre National de Montpellier et le Chœur de l'Opéra, nous allons aussi découvrir toute une partie de ce répertoire qui va du Mexique au sud de l'Argentine, je veux dire, qui englobe toute l'Amérique du Sud, et tous les pays ont eu leurs compositeurs, leurs danses, leur vision du lyrique avec la danse, le chant et l'orchestre. Et ça, c'est quand même l'ADN de l'opéra. Pour faire un opéra, il faut du chant, de la musique orchestrale et de la danse, puisque, ne l'oublions pas, l'opéra, c'est quand même un art qui est dansé au départ. Et on le retrouve ça évidemment formidablement dans la comédie musicale américaine et aussi dans toute cette musique d'Amérique du Sud où tango, salsa, rumba, vous l'avez dit, font partie du répertoire.
Alors, donc il y aura, vous nous avez déjà soufflé ce qu'il y aura comme spectacle, hein, il y aura, donc ça va se... ces folies latinas vont tourner autour de trois moments. Hein. Alors le premier, je crois que c'est Volver qui vient en premier.
Oui.
Donc, il sera proposé par Armando Noguera et Anne Lopez. Alors, un petit mot sur ce Volver. Après, je rencontrerai Armando Noguera et Anne Lopez. C'est prévu. mais vous pouvez déjà nous en dire un petit peu quelque chose.
Bien sûr, alors Armando Nogueira est un compositeur, est un baryton, c'est un chanteur argentin.
Ah, peut-être qu'il a une vocation de compositeur renfermé qui va se développer.
Je sais pas, qui est baryton. Et il a fait ses études dans son pays, bon, il y a un très très beau théâtre, hein, en Argentine, à Sao Paulo. Et
Rio.
En Argentine, c'est.
Buenos Aires,
pardon. Le théâtre Colón. Et il est venu en Europe, il travaille maintenant énormément en Italie, il travaille énormément en France. Moi, je l'ai rencontré. Il est connu à Montpellier parce qu'il est beaucoup chanté à l'Opéra National et aussi au Folido. Dans des répertoires aussi variés que Gluck, Offenbach, Rossini, voilà, c'est un très grand baryton rossinien aussi. Et il a eu envie de nous raconter un petit peu sa jeunesse musicale par les musiques qui l'ont bercé, et effectivement le tango qui a une importance dans sa vie d'homme aussi, dans sa vie d'homme et dans sa vie de musicien quand il était jeune. Et avec la chorégraphe Anne Lopez, Montpellier-Rennes, et quelques musiciens, il a eu l'idée de raconter sa vie, voilà, comme ça. Il a appelé ça Volver, c'est un joli spectacle où il va traverser toute la musique de son époque et de sa jeunesse, voilà. Mmh. Et c'est un moment de poésie, on verra plus tard dans le festival, il y a des choses un peu plus... plus dansée, plus swingante, mais c'est aussi une musique intérieure, c'est aussi Carlos Gardel, Astor Piazzolla sont des gens, Cabral sont des gens, voilà, qui ont apporté énormément à la culture de leur pays.
Oui, et puis si je ne me trompe pas, Volver, c'est un des tubes du tango signé Carlos Gardel.
Absolument.
Me semble bien. Et puis ça met en avant ce côté, cet aspect du tango qui n'est pas la danse, mais qui est le texte, qui est la nostalgie, la douleur de quitter le pays, d'y revenir, de ne pas avoir de travail. Il y a tout ce côté très social des textes du tango.
Mais la musique, cette musique-là a toujours été très inspirée de tout temps, de phénomènes de société, effectivement. À partir du 19e siècle, et en particulier au 20e siècle. Voilà, et donc, ça, c'est un très, très joli spectacle qui aura lieu le 30 juin à 21h30, qui ouvrira les Folies Latinas. Ensuite, nous avons ce groupe de Compay Segundo. Donc ça c'est aujourd'hui ce groupe a été refondé par le fils du leader du Buena Vista Social Club, et là c'est 8 musiciens avec des projections d'images, c'est-à-dire c'est au-delà du concert au Folido. Moi j'aime bien toujours qu'il y ait des images et qu'on raconte une histoire, et là c'est pareil, on va voir un petit peu toute l'histoire de cette musique cubaine par rapport à tout ce qui va se passer à Cuba, parce que c'est un pays qui va connaître une vraie révolution au XXe siècle, et comment la musique va évoluer et comment les gens vont à travers la musique pouvoir s'évader ou au contraire faire la révolution. Voilà, moi je ne juge pas les évolutions politiques des pays, mais force est de constater que la musique a changé et la musique a accompagné toute cette période cubaine qui est très très riche, parce que voilà, c'est des pays qui ont souffert de la révolution, mais qui ont aussi apporté énormément de choses. Voilà.